au chapitre 2, les versets 13 à 25. Alors, je vais même lire, je vais faire une entorse aux lectures, excusez-moi, mais je vais lire quand même le verset 12. Après cela, il descend à Capharnaüm, la ville de Naoum. Lui, il s'agit de Jésus, sa mère, ses frères et ses disciples. Et là, il ne demeure pas beaucoup de jours. Je lis dans le texte grec, hein, de linéaire. La Pâque des Juifs est proche. Et Jésus monte à Jérusalem. Il trouve au temple les vendeurs de bœufs, brebis et colombes et les monnayeurs assis. Il fait un fouet avec des cordes et les jette tous hors du temple. Et aussi, c'est moitié français, moitié machin, et aussi les brebis et les bœufs. Il éparpille la monnaie des changeurs et renverse leurs tables. Il dit au vendeur de colombes, « Enlevez ça d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs donc répondent et lui disent, « Quel signe nous montres-tu pour intervenir de la sorte ?» Jésus répond et leur dit, « Détruisez ce sanctuaire, en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs disent donc, « 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. » Encore, c'est pas très juste. « Et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais lui, bien sûr, parlait du sanctuaire de son corps. Quand donc il s'est relevé d'entre les morts, ses disciples se sont souvenus qu'il avait dit cela, et ils ont cru à l'écrit et à la parole qu'avait dite Jésus. Nous prions. Seigneur, nous venons de dire que tu étais le Verbe, la parole faite chair. Ça, Seigneur, c'est extraordinaire. Parce que rien que ta présence, Seigneur, suffisait à convaincre les autres. Mais pour nous, pauvres terriens, Seigneur, il nous faut des écrits. Parce que les écrits restent, nous disons. Et à travers cette parole, nous pouvons nous approcher de toi, nous pouvons comprendre qui tu es. Nous pouvons aussi connaître tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu nous réunis autour de cette parole. Qu'elle nous dérange, qu'elle nous déstabilise, peu importe. C'est ta parole. Elle est vérité. Mets-nous à part, Seigneur, par ta vérité. Amen. Donc, cette lecture qui nous est proposée pour ce Shabbat, et qui nous est proposé dans nos églises toutes confondues, fait fi de ce fameux verset 12 dans notre chapitre 2 de l'évangile de Jean. Il est pourtant pour moi très important, puisque pour la première fois dans toute l'Écriture, nous trouvons Jésus accompagné de sa mère, de ses frères de chair et de ses disciples. Ils sont, nous dit le texte, de retour des noces de Cana. C'est marrant parce que quand on lit ça, on ne peut pas s'imaginer un instant que l'évangéliste y raconte n'importe quoi. Il dit ce qu'il a vu ou ce qu'on lui a raconté. Ils sont de retour des noces de Cana, puisque c'est le premier. C'est à Cana qu'on nous dit que Jésus a fait le premier miracle et que ses disciples ont cru en lui. À Cana, ils sont que 5. Hein. Il n'y a pas les 12 encore. Et puis, on nous dit Il s'arrête quelques jours à Capharnaüm. Tout le monde sait que dans l'évangile, Capharnaüm, c'est un peu une résidence secondaire qu'on a prêté à Jésus, et il est souvent là, et il va prêcher autour du lac de Tibériade. Et puis, il repart de ce lieu, et là, on nous dit que Jésus se rend à Jérusalem. Mais on n'en parle plus de ses parents, de sa mère et de ses frères. C'est pas écrit mot à mot, mais quand on gratte, on comprend. Et quand on regarde une carte de Palestine, on s'aperçoit que Capharnaüm, que Cana, que Nazareth, c'est près du lac du Tibériade, c'est tout à peu près dans le même lieu. Donc on comprend ce qui s'est passé. On comprend que finalement Jésus a accompagné ses parents, mais qu'il a continué avec ses disciples pour se rendre à Jérusalem. Et Jésus monte à Jérusalem, parce qu'on nous dit que la Pâque des Juifs était proche, c'est-à-dire qu'elle allait avoir dans quelques jours. Cette cité de David est située à 762 mètres d'altitude, ceux qui n'ont jamais fait le chemin à pied, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi on dit toujours « on monte à Jérusalem » et pourquoi on dit « on descend à Jéricho ». D'où le verbe grec « anabaïdo » qui signifie « monter ». Jésus a sans doute laissé sa famille au passage à Nazareth pour se rendre à Jérusalem, accompagné, je le répète, seulement de ses disciples. C'est ce que le texte laisse supposer, si nous connaissons tant soit peu la géographie de ce pays. Et comme je dis bien souvent lors des prédications, l'Écriture ne nous dévoile pas tout à travers sa lecture, faut-il encore la méditer pour y trouver les trésors qu'elle semble dissimuler. Pas trop dissimuler, sinon nous les trouverions jamais. C'est comme les œufs de Pâques dans les jardins, si vous les enterrez, les enfants n'en trouveront pas un seul. Mais on laisse toujours un petit peu dépasser les choses. Eh bien, la Bible, c'est un livre. Et le film intitulé « Jésus de Nazareth », lorsque je me suis penché sur ce texte, c'est toute cette mémoire qui m'est remontée du film, restitue bien l'ambiance qui marque ce rassemblement des Juifs venus des quatre coins de la Méditerranée pour fêter la Pâque. La ville est en effervescence pendant 8 jours d'affilée, et ce n'est pas une mince affaire que de gérer une telle affluence. Ce n'est pas 10 000, 200 000, 1 million de personnes, c'est plus. Parce qu'ils viennent de tous les pays, rappelez-vous à la Pentecôte, tous ces Juifs qui sont nommés, eh bien pour la Pâque, chaque année, ils montent tous à Jérusalem. C'est un ordre divin. Vous voyez un petit peu l'ambiance. C'est une époque, bien sûr, où le commerce bat son plein. Bref, un temps qui marque l'économie du pays, semblable au salon de l'agriculture qui se tient en ce moment à Paris. Ça brasse. Le décor est planté. La situation géographique nous est donnée. Cherchons maintenant ce que le texte veut bien nous donner pour nourrir notre foi. Jésus se retrouve donc au temple. Et devant ce foutoir, le mot n'est pas trop fort. Il s'indigne. Ce n'est pas tant le fait de voir tout ce monde gesticulant, et Dieu sait s'il gesticule, ou le désordre apparemment bien ordonné, c'est bien plus grave que cela. Jésus discerne que cette fête de Pâques a été détournée de sa valeur spirituelle pour se transformer en une véritable fête de foire. Il est souvent ainsi dans l'histoire des peuples où l'origine d'une fête religieuse est tombé dans l'escarcelle de Mammon. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Il n'y a qu'à regarder à nos fêtes chrétiennes pour en être convaincu. Dans quelques années, Noël n'aura plus aucun caractère religieux si ce n'est pas déjà le cas. Pentecôte et l'Ascension sont déjà à la trappe et seule la fête de Pâques résiste encore aujourd'hui, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il est intéressant de noter au verset 14 de notre passage que lorsque Jésus arrive au temple, merveille. Hein. Vous savez qu'on a classé certains édifices, les sept merveilles du monde, vous l'avez dit, je ne vous rappelle plus. Mais ça, c'était... On ne connaissait pas encore le temple, mais le temple de Jérusalem, c'était quand même quelque chose. Hein. Eh bien, son regard se pose tout de suite sur ce que j'appelle les maquignons, qui vendent bœufs, brebis et colombes pour les plus pauvres. Mais son regard s'arrête surtout sur ces monnayeurs assis, le texte nous le dit. Mais qu'est-ce que... Vous voyez que déjà, on sent qu'il va se passer quelque chose. Le regard de Jésus se pose sur ces gens et sur ces monnayeurs qui sont assis, comme Matthieu, notre évangéliste, l'était au péager, et qui en même temps s'en mettait plein les poches. C'est à ce moment précis que la moutarde lui monte au nez. Amora. Alors, il se fabrique un fouet. Il doit déranger un gars qui est à son étal, là, lui piquer quelques cordes. C'est écrit, il se fabrique un fouet avec des cordes et il jette dehors tous ses marchands, tous. Il éparpille même la monnaie des changeurs et renverse leur table et leur dit, d'une manière impérative, d'une manière colérique, n'ayons pas pour des mots, enlevez-moi tout ça d'ici. Ça fait penser une maman qui rentre dans la chambre de ses enfants, qui dit, enlevez-moi tout ça, je veux plus y voir, c'est insupportable. On imagine, et c'est pas aller trop loin comme interprétation, la fiente de ces oiseaux, ou des autres animaux, se répandant sur l'esplanade du temple. Le lieu saint par excellence a fait place au veau d'or. Mettons-nous à la place de ceux qui ont assisté à la colère de Jésus. Il y a longtemps, mais très longtemps, que l'on trouve sur l'esplanade du temple des marchands d'animaux. Quand on vient en pèlerinage à Jérusalem, parfois de très loin, on s'attend bien sûr à trouver sur place des bêtes à acheter pour les offrir en sacrifice. Quand on change de monnaie, on en a besoin aussi. On est sous occupation romaine et les pièces frappées à l'effigie de l'empereur sont indignes de figurer dans le trésor du temple. Et pourtant, en ville, elles sont indispensables dans les commerces. Mais pas au temple. Jésus ne veut pas de ce trafic. Donc, en arrivant, avant d'aller au temple, on change ce qu'il faut contre de la monnaie juive, et bien sûr, les spéculateurs s'en mettent plein les poches, comme quoi le cœur de l'homme est toujours assoiffé de spéculation. On fait du profit sur la marchandise consacrée à Dieu. Pour l'instant, la violence de Jésus est inattendue. Ses paroles encore plus. Et le reproche qu'il fait au vendeur, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Vous voyez pourquoi Jésus se met en colère? Laisse entendre peut-être qu'il se prend pour un prophète ou tout simplement qu'il connaît la Bible Tanakh sur le bout des lèvres. Tanakh, Théa pour Torah, N pour les Lévites, les prophètes, et K pour les Ketuvim, donc l'ensemble de la Torah. Il reprend ce que Jérémie disait à son époque. Quand Jésus cite un verset de l'Écriture, il le cite parce qu'il connaît l'Ancienne Alliance, il connaît toute la Torah. Et il la cite à propos et au bon moment. Jérémie disait, cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé, vous la prenez donc pour une caverne de bandits? Et mieux, disent certains, mais il se prend pour le Messie, car le prophète Zacharie avait annoncé, écoutez bien, il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur le Tout-Puissant en ce jour-là, sous-entendu le jour de la venue du Messie. Et pire, en parlant du temple de Jérusalem, il ose dire que c'est la maison de son père. Devant cette attitude ou cette prétention, ouvrons grand nos oreilles pour essayer de comprendre. C'est ce que font les disciples. Ou bien remettre ce prétentieux, ce faux messie à sa place. C'est l'attitude de ce que Jean appelle surtout dans l'évangile les juifs. En réalité, juifs, ils le sont tous. Mais certains ont déjà vu Jésus à eux. Et depuis le baptême au bord du Jourdain, depuis les noces de Cana, depuis son baptême, ils sont pressentis plusieurs fois que Jésus pourrait bien être celui qu'ils attendent. Alors, ils sont un peu préparés à reconnaître dans l'attitude de Jésus comme un geste prophétique que le Messie lui-même donnerait au temple. Alors, pour être sûr, pour sortir de l'autoroute, les Juifs disent, en s'adressant à Jésus, quel signe nous montres-tu pour oser faire ce que tu viens de faire? Quel signe nous montres-tu? Autrement dit, dis-nous vraiment si tu es le Messie. Fais quelque chose. Parce que sous-entendu cette question, seul le Messie pourrait se permettre une telle attitude vis-à-vis du temple. En plein milieu, presque au moment où la fête de Pâques va être proclamée. Ainsi, oui, ils sont prêts à croire qu'il est le Messie, mais afin d'en être persuadés, ils lui demandent un signe. Siméon, en grec. Et là, c'est intéressant. Toi qui apprends le grec, hein. C'est très intéressant. Parce que Siméon, on le traduit souvent par miracle. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Siméon, on pourra regarder sur un dictionnaire grec, le Bailli surtout, en fait, ce qu'il demande, je ne dis pas que ça ne veut pas dire miracle, hein, mais je veux dire que dans certaines circonstances, ça ne veut pas dire miracle. Dans certaines circonstances, c'est une preuve, c'est-à-dire un indice, une empreinte, quelque chose de marquant qui arrive. Ou en grec encore, qui est plus significatif justement, c'est hypographoun, une écriture. Ce qui est écrit au bas d'un parchemin, ou alors une signature. C'est ce qu'il me semble. Pas forcément un miracle. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus va répondre en mettant en exergue justement le temple. Non seulement celui dans lequel il se trouve qui est bâti par Hérode le Grand, mais aussi en faisant allusion à son propre corps. Allusion qui ne sera comprise par aucun de ses auditeurs, ses disciples y compris, et si nous y étions, nous étions dans le même lot. Et c'est là que c'est intéressant. En tant que juif, je dis bien, en tant que juif, ils auraient dû comprendre que Jésus, dans sa réponse, utilisait une méthode pratiquée par tous les sages de cette époque, par tous les théologiens juifs, que l'on appelle en hébreu le parbès, qui veut dire le jardin des délices, le jardin des fruits. Autrement dit, les quatre façons d'interpréter un texte dans la Torah. Jésus le fait exprès, n'en doutons pas. Et quelles sont ces quatre façons d'interpréter un texte? Eh bien, c'est le pshat, le premier P de parbès, c'est le sens littéral. Il n'y a pas à se tromper, on lit le texte, c'est le sens littéral. Et puis le deuxième, du par, le R, c'est le remez, c'est le sens qu'on dira allégorique. Et puis le dé de parbès, qui s'appelle le drash, du verbe chercher. Et enfin, la quatrième lecture, le sod, qui veut dire le secret et le mystère de la Torah. Eux, ils ont pris le premier sens littéral. Il est fou. Comment on peut détruire ce temple quand on a mis 46 ans pour le construire, me dire, et lui, en 3 jours, il va le rebâtir? Et c'est quand même étonnant. Ils sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas pris le temps de la réflexion, parce que s'entendre dire que Jésus pourrait reconstruire le temple en 3 jours, ce qui est impossible en soi, aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire de ne pas prendre cette affirmation de Jésus à la lettre, bien qu'elle contienne en partie une certaine vérité. Eux qui sont habitués à couper les cheveux en quatre à propos des textes, rappelez-vous la question de cette femme qui a épousé cet homme et de qui sera-t-elle la femme dans le royaume des cieux. Non, mais c'est aberrant de poser de telles questions. C'est comme ça, c'est leur tradition. Eh bien, ils n'ont pas vu le piège tendu par Jésus. Ils sont passés à côté. Ils sont restés au pshat, au sens littéral. C'est pourquoi ils répondent à Jésus qu'il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et que lui, il est impossible qu'il le reconstruise en 3 jours. Balinaire, devaient-ils penser dans leur fort intérieur. C'est encore peut-être plus difficile de faire passer un chameau par le chat d'une aiguille. Curieusement, je dis bien curieusement, Jean a placé cet épisode du temple au début du ministère public de Jésus, alors que les 3 autres évangélistes le placent au contraire tout à la fin. Qu'est-ce que Jean veut nous dire ici? Eh bien, il y a des a priori qui empêchent Dieu de parler. Les disciples n'avaient pas ces a priori, ils ne comprenaient pas toujours, mais à force de marcher avec Jésus, pas à pas, ils le découvraient peu à peu. Mais au contraire, ses opposants, enfermés dans leur certitude que Jésus ne pouvait pas être le Messie, eh bien, ils ont loupé le coche. Désormais, ce que veut nous dire Jean, en plaçant cet épisode juste au moment où Jésus rentre dans le temple, il veut nous dire que la présence de Dieu n'est pas dans une construction en pierre, mais au cœur même de l'humanité, dans le cœur du ressuscité. Voilà ce qu'il veut nous dire, Jean. Pourquoi ? Nous nous étions posé la question, pourquoi, il y a quelques dimanches de là, Jésus avait envoyé le lépreux, écoute bien, qu'il venait de guérir devant le sacrificateur. Il le dit, il l'a très bien dit, pour que ça serve de témoignage, c'est ce que nous dit le texte. Il a très bien développé ce récit. Mais j'ajouterai ma petite réflexion, parce qu'elle m'a sauté aux yeux devant le texte de Jean, c'est que dans cette situation, la purification du lépreux, Jésus veut surtout se révéler comme le nouveau grand sacrificateur. Ouais, c'est ça aussi. Et là encore, malheureusement, les fameux chefs religieux devant lesquels il a témoigné ont encore une fois passé à côté de cette révélation. Car comme le dira Jésus, ils ont des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Eh bien, je crois qu'il en est de même pour notre récit. Jésus cherche à révéler au peuple qu'il deviendra, à la prochaine fois, voire la suivante, le nouveau temple de Dieu. Et dans les premiers chapitres de chaque évangile, je suis allé gratter, nous trouvons ce phénomène. C'est toujours caché. Dans l'évangile de Marc, Jésus est le nouveau grand sacrificateur. Dans celui de Matthieu, il est le roi des Juifs. Dans celui de Luc, il est le nouvel Adam. Et dans celui de Jean, il est le nouveau temple. Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Et si Jésus revenait en ce jour, se ferait-il un fouet pour nous jeter dehors, c'est-à-dire loin de sa présence? Accepterait-il les compromissions que nous faisons parfois avec ce monde? Et même s'il nous accordait un nouveau signe, Comme le demandaient les juifs de son époque, serions-nous encore capables de l'interpréter correctement? Jésus pourrait-il vivre dans notre temple? Lui laisserions-nous de la place ou simplement le coin le plus reculé de notre habitation? Vous savez, Salomon qui a construit le temple, vous savez combien de temps il a mis pour le construire? 7 ans. Et vous savez combien de temps il a mis pour construire sa maison? 14 ans. Salomon commençait à laisser nombreuses femmes. Nous connaissons comment Salomon va finir dans l'idolâtrie. À un moment donné, nos affaires sont plus importantes que celles de Dieu. Il y a à ce moment-là un grave glissement de terrain sur notre consécration. Lui avons-nous donné notre vie tout entière? Ne répondons pas trop vite, car il pourrait nous prendre au mot lorsque nous chantons « Oui, prends tout, Seigneur ». Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Il ne va pas me prendre ma dernière Ferrari. Moi, je suis très conscient de ces choses-là. Très conscient. La parole de l'apôtre Paul résonne-t-elle en nous comme un leitmotiv? Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Dieu nous a rachetés à un grand prix, bien plus cher que celui des bœufs, des moutons ou des colombes. Et la scène est là ce matin pour nous rappeler le prix que le Père a payé. Chaque dimanche, c'est en sorte une nouvelle Pâque que nous célébrons. Et même si nous n'en faisons que mémoire, elle doit dimanche après dimanche se vivre comme étant nouvelle. Le judaïsme, il est fort pour ça. Quand il fait ses fêtes, ils en font mémoire, mais c'est comme si c'était tout à fait nouveau. C'était comme si ils la fêtaient pour la première fois. Et en ce moment, ils sont en Pourim, l'histoire d'Esther et de Mardoché. Avec des... Ils se déguisent avec des petits trucs qui tournent, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, en bois, vous savez, là, des petits moulins avec tout, ils sont dans sa chambre. Et c'est le seul, et c'est la seule fête où on suppose qu'ils se permettent de s'enivrer. Pourquoi? Pour se rappeler la grande délivrance qu'il y a eu lorsqu'ils étaient en Perse et qu'ils étaient décimés. Oui, chaque dimanche, c'est en sorte une nouvelle Pâque que nous célébrons. Dieu nous a offert en sacrifice la vie de son Fils. Ne devons-nous pas nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice, heureusement que l'apôtre Paul l'a ajouté, vivant. Parce que mort, ça ne sert plus à rien. Un sacrifice vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage pour l'Église, dans ce monde, pour les plus petits, etc., etc. Il faut qu'il soit vivant pour que ça serve à quelque chose. Que Dieu nous soit en aide, afin que nous puissions, à travers ce texte, progresser dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Amen.